Pendant notre absence, un témoin s'était présenté. L'Ardenne le fit patienter dans le couloir devant la porte vitrée de mon bureau. Il s'agissait d'un homme de 35 ans ou 40, habillé d'un pantalon de cuir, d'une veste à carreaux multicolores et chaussé de superbes bottes mexicaines, le parfait zozo. Se balançait à l'Ardenne, les dents serrées. « Bravo, c'est carnaval. Je souhaite pour vous qu'il ne me fasse pas perdre mon temps. » Avant de pousser la porte, j'observais mon rocker vieillissant. Il avait tiré un peigne de sa poche et le glissait dans ses cheveux en aplatissant de la main. Avec la paume, il vrilla la mèche sur son front. Je le priai de s'asseoir. « Alors, vous avez des révélations à me faire au sujet du meurtre de ce jeune Parisien ?» Il leva les bras, tordit le cou et d'une voix haut perchée parvint à articuler. « Pas si vite, comme vous y allez ?» J'ai remarqué ce garçon l'autre soir lorsqu'il sortait de la préfecture. Mon quartier général est situé en face, au bar chez Verdier. C'est le seul coin où on peut jouer au pachinko. L'Ardenne ne se doutait pas encore de ce qu'il attendait quand j'en aurais fini avec ce guignol. Je l'ignorais et ça consiste en quoi le pachinko ? Il parut heureux de rencontrer un néophyte attentif. Une machine à sous d'origine japonaise, un peu comme un flipper. On achète des billes en acier au comptoir et on les enfourne dans l'orifice d'une boîte accrochée au mur. Avec les poignets, on dirige les billes à travers les obstacles. Si on atteint la cible, on gagne d'autres billes. Oui, et ensuite ? Il me regarda sans comprendre. Eh bien ensuite, on recommence. C'est formidable. Alors retournez jouer aux billes. J'ai autre chose à faire que d'écouter vos histoires. Mais monsieur l'inspecteur, je l'ai réellement vu ce garçon. Il n'était pas seul. Je sursautais. Pas seul ? Expliquez-vous. Voilà, j'avais fini ma partie et je m'apprêtais à sortir quand le Parisien quitte la préfecture. J'aime bien regarder les beaux gars et on ne peut pas dire que celui-là était désagréable. J'avais l'intention de le suivre quand j'ai remarqué qu'un autre homme le filait. Un mec plein de fric. En tout cas, il roulait en Renault 30 TX, une bagnole noire. Vous avez vu sa voiture ? Vous vous souvenez du numéro ? Non, uniquement du département, 75. Un Parisien lui aussi. Alors j'ai laissé tomber et je me suis payé une autre séance de pachinko. Vous pouvez me décrire votre concurrent, sa stature, ses vêtements ? Oui, un type de taille moyenne, environ 1m65, les cheveux gris blancs. Je l'ai vu de dos la majeure partie du temps, mais je lui donne au moins 60 ans. Sinon, il était habillé comme un cadre, costume gris, chaussures noires. J'appelais l'Ardenne. Merci pour ce client, c'est le premier à avoir aperçu le meurtrier. Il se balade dans une Renault 30 TX noire immatriculée à Paris. Il doit suivre Thiraud depuis son départ. Mettez-vous en rapport avec la gendarmerie, la police de la route et tous les postes de péage situés entre la porte de Saint-Cloud et les Sept Deniers. Vous laissez tout le reste de côté. Il ne doit pas y avoir plus de 10 bagnoles de ce genre qui ont emprunté le trajet Paris-Toulouse au cours des 2 derniers jours. Épluchez le moindre procès-verbal. De mon côté, je vérifie sur la ville. On peut rêver. Il était à peine 11h. J'avais déjà encaissé un interrogatoire, une visite à la morgue et un entretien avec un passionné de pachinko. Il me manquait un bon café pour tout digérer et je me dirigeais lentement vers le distributeur automatique. Je poussais mes 2 pièces de monnaie d'un coup sec pour aider au déclenchement du mécanisme. Un gobelet de plastique blanc descendit sur la grille. Un filet d'eau marron, dévié par quelques bulles, le remplit en silence. Un bâtonnet transparent se ficha dans la boisson et m'avertit de la fin de l'opération. Des cris interrompirent brusquement ma dégustation. Ça venait de la salle d'accueil et le vacarme dépassait de beaucoup le niveau moyen des engueulades avec le public. Je passais derrière les guichets. Le chef du service me harponna aussitôt. Nous n'y comprenons rien. Tous ces gens ont été convoqués par le commissaire Matabio, mais nous ne retrouvons aucune trace de leur dossier. Vous en avez combien sur les bras ?
Une 30aine pour le moment, inspecteur. Il en arrive sans arrêt. Si seulement monsieur le commissaire nous avait mis au courant. Je vais essayer de régler ça. Passez-moi une de ces convocations. » Il me remit un papier bleu, un formulaire classique, en tête du commissariat, enjoignant le destinataire à se présenter d'urgence. Le motif était normalement souligné. Mise en place du nouveau fichier informatisé destiné à la lutte contre le terrorisme. Le dernier paragraphe expliquait la rapidité avec laquelle tous ces gens avaient répondu. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître et de déposer. Tout contrevenant est passible d'une peine pouvant atteindre 10 jours d'emprisonnement et 360 francs d'amende. Article 61, 62 et suivant du Code de procédure pénale. Le tampon commissariat Carnot-Toulouse masquait à demi la date d'envoi 28 juillet 1982. Relevez l'identité de tous ceux qui se présenteront avec une convocation comme celle-là et dites-leur de rentrer chez eux sans inquiétude. Nous leur ferons signe d'ici quelques jours. Je crois bien que nous avons affaire à des plaisantins. Comment le savez-vous, inspecteur ? Vous avez bien fait de choisir une affectation dans les bureaux. Matabio est parti en vacances avant le pont du 14 juillet. Je ne vois pas comment il aurait pu signer ses papiers avant-hier. Un petit malin s'amuse avec nos nerfs, mais il ne sera pas difficile à débusquer. Pour commencer, dressez donc la liste des employés qui ont accès au formulaire vierge et au tampon. Le brigadier Bourassol effectuera un premier tri et m'enverra les heureux élus. Trois jours plus tard, un seul problème était résolu. La mairie de Toulouse venait d'accorder 250 francs de prime à ses fossoyeurs. La reprise du travail fut votée à l'unanimité. Cela me permit de lever le cordon de sécurité mis en place au cimetière de Rapa et de récupérer 4 hommes. Près de 200 Toulousains avaient fait le siège des guichets du commissariat, scandalisés qu'on les soupçonne de terrorisme, sans que je parvienne à détecter l'origine des faux. L'enquête sur le meurtre de Bernard Thirault marquait le pas. La synthèse du laboratoire de balistique traînait sur un coin du bureau. Un tir de comparaison avait été effectué avec l'arme retrouvée par les services municipaux. Le résultat du test du puits d'eau était formel. Il s'agissait bien du pistolet dont s'était servi le meurtrier. Douille et balle étaient absolument identiques. Le labo avait poussé la minutie jusqu'à joindre le cliché 30 fois agrandi des stries relevées sur les balles. Le schéma des trajectoires m'a appris que Thirault avait reçu 2 balles de face et 6 autres dans le dos alors qu'il était à terre. Les impacts de face étaient réguliers. Le laboratoire évaluait la distance de tir entre 2 et 4 mètres. Les coups suivants avaient, au contraire, laissé d'importantes traces de combustion et le meurtrier ne devait pas se trouver à plus de 50 cm de la victime. Le rapport du brigadier Lardenne ne m'éclaira pas davantage. On aurait pu facilement penser que la Renault 30 n'existait pas, si son conducteur n'avait pas eu la mauvaise idée de marquer son passage d'un cadavre. Les pompistes, Lardenne, vous les avez interrogés ? Il leva les bras au ciel et les rabattit en les faisant claquer sur ses cuisses. « Bien entendu, inspecteur, un par un. Ce n'est pas compliqué. Une voiture comme ça est munie d'un réservoir de 70 litres. Sur autoroute, on évalue sa consommation à une moyenne de 11 litres. En supposant qu'il ait fait le plein au départ, pas de doute, il tombe en panne sèche vers Marmande ou Agen. En tout cas, il s'est obligatoirement arrêté pour prendre de l'essence. » Pourtant, aucune station-service n'a reçu la visite de cette bagnole, à l'aller comme au retour. Et pourquoi pensez-vous qu'il soit reparti de Toulouse ? Ça me paraît logique. On dirait l'exécution d'un contrat. Le gars a pour mission de liquider Thirault. Son boulot effectué, il rentre tranquillement à la maison. Tout indique que nous avons affaire à un professionnel, comme la marque du pistolet. Un Liama spécial, tout droit sorti de la série volée en Espagne. D'accord pour le flingue, mais il y a une chose qui ne colle pas du tout. Laquelle, inspecteur ? L'assassinat, tout simplement. Lisez le papier du labo. La scène est facile à reconstituer. Thirault marche à la rencontre du tueur. Il ne le connaît pas de toute évidence. À 3 ou 4 mètres, celui-ci dégaine et lui loge 2 balles dans le corps, une dans l'épaule, l'autre dans le cou. Quand Thirault est à terre, il l'achève de 6 balles dans le dos à bout portant. Vous connaissez beaucoup de professionnels qui travaillent de cette manière ? Non. Un gars de métier, un exécuteur, aurait attendu que la cible soit à 1 mètre. En avançant le bras, il lui fourrait le canon sur le cœur ou sur la tempe, ça dépend des écoles.
une balle, deux au maximum. Au lieu de ça, notre bonhomme vide son chargeur, au risque d'ameuter tout le quartier et de se faire pincer. Lisez ce passage. Seule la seconde balle a provoqué des lésions mortelles en traversant le cou. Aucune des autres n'a atteint d'organe vital. Ces 6 balles de trop m'inclinent à penser que le meurtrier était directement impliqué. Cela explique son acharnement. Ce n'est pas un professionnel, mais un amateur éclairé. Les plus coriaces. Pour le pincer, nous dépenserons plus d'énergie et d'intelligence qu'il n'en faut pour mettre un Rubik's Cube en ordre. Vous ne croyez pas l'Ardenne ? Je ne lui laissais pas le temps de répondre. « Allez, suivez-moi, nous allons faire un tour au Capitole. » Avant de mourir, Thiérot a consulté les archives de la mairie et de la préfecture. Il se destinait à l'enseignement de l'histoire. Il est probable que ses démarches soient liées à ses études. Enfin, il ne faut rien négliger. Le parking de la place du marché était bondé. L'Ardenne trouva une place rue du Thor devant l'enseigne de la Cave, un cabaret communautaire. La malchance nous accompagnait. Pradis, le maire adjoint à l'information, pérorait dans le hall d'accueil du Capitole tandis que nous faisions irruption. Il délaissa ses interlocuteurs et vint à notre rencontre. « Monsieur l'inspecteur Cadin, monsieur le brigadier, quelle coïncidence, je pensais vous appeler. » Il me prit par le bras et m'entraîna derrière un massif de fleurs qui formait paravent. Ça ne peut pas recommencer, inspecteur. Il est nécessaire de les arrêter immédiatement, sinon ils vont nous traîner dans la boue. Vous aussi. La presse ne sait rien encore, mais je ne me fais pas d'illusions. Dès qu'ils sentiront l'odeur de charogne, ils se battront pour arracher tout le morceau. Il suait à grosses gouttes. Des relents de transpiration m'arrivaient aux narines en effluves âcres. Je respirais par saccades pour atténuer l'agression olfactive. Mais arrêtez qui ? Dites-le-moi à la fin. Je vous promets de faire mon possible. Les situationnistes. Qui ? Les situationnistes, une bande organisée qui envoie ses fausses convocations concernant le fichier antiterroriste. Nous recevons des centaines de coups de téléphone de protestation. Le cabinet du maire est submergé de demandes d'audience. N'oubliez pas qu'il est également député et qu'il joue un rôle important à la Chambre. Ils nous ont fait le même cinéma en 1977 avec les municipales. Vous devriez vous en souvenir. À cette époque, je travaillais dans la région de Strasbourg et je m'intéressais assez peu à la cuisine électorale toulousaine. Je l'ignorais. Pardonnez-moi, cette histoire affole tout le monde. On ne parle que de ça dans les couloirs. En 1977, nous avons subi une attaque en règle. Faux bulletin municipal diffusé à 10 000 exemplaires, conférence de presse bidon, intoxication de la presse nationale, jusqu'à une manifestation de chômeurs. Les situationnistes avaient tout simplement annoncé la fin de leurs droits aux ascédiques à 1 500 chômeurs. Ils leur demandaient de venir déposer un dossier d'aide d'urgence auprès du maire. À 11h du matin, la place grouillait de monde et je vous donne en mille ce qu'ils avaient inventé. Trois camionnettes de chez Pujol, le traiteur le plus renommé de la ville. On lui avait commandé, au nom du maire, un lunch de luxe pour 200 personnes. Petit four, toast au saumon, au caviar, au foie gras. Je vous laisse imaginer la réaction des chômeurs persuadés d'avoir tout perdu, quand les serveurs de Pujol ont voulu traverser leur rang avec leur plateau rempli d'amuse-gueules. Astucieux, en effet. Vous avez mis la main sur ces situationnistes ? On ne se procure pas un fichier de 1 500 personnes sans laisser de traces. Il remua la tête de droite à gauche et quelques gouttes de sueur, refroidies par le trajet, s'écrasèrent sur ma joue en provoquant un frisson de dégoût. Non, jamais. Pourtant, cette campagne a dû coûter très cher. Ils ont disparu sans tirer de profit apparemment de la situation. Tout le monde était visé, aussi bien Baudis que Savary. Puis plus rien pendant 6 ans. Il y a quelques mois, nous pensions avoir affaire à eux avec le CLODO. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux éviter la fréquentation des édiles locaux, mais les talents de conteur de Prodis me feraient facilement revenir sur ma décision. Il s'interrompit après l'évocation de cette mystérieuse organisation et devança ma question. Oui, le comité de libération et d'organisation des ordinateurs. Un groupe d'illuminés qui a fichu le feu au centre informatique régional. Ils nous ont obligés à refaire les formulaires de la taxe d'habitation. Tout le travail était parti en fumée. Ceux-là sont sous les verrous et on a pu établir que leur action n'avait rien à voir avec celle des situationnistes. J'ai tout mis en œuvre pour retrouver ces faussaires. Ils ne courront pas bien longtemps, je vous l'assure. Pour le moment, je me retrouve avec une affaire de meurtre sur les bras et vous comprendrez que je m'y consacre en priorité. Il est préférable de laisser des plaisantins en liberté plutôt qu'un assassin. Monsieur l'inspecteur, je ne suis pas de cet avis. Faites patienter votre meurtrier, il ne demande pas mieux, mais empêchez-les de nuire. Ils essaient de nous déstabiliser. Il y va de la démocratie. Je vous le répète, nous nous occupons de ce problème. Apprenez par la même occasion que je fixe les priorités dans mon travail. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez faire un tour à la morgue. Demandez à voir Bernard Thirault, de ma part. Je le laissai clouer sur place et je rejoignis le brigadier Lardenne. Direction les archives. Selon le chef de service, Bernard Thirault s'intéressait aux documents administratifs concernant les années 1942 et 1943. Il nous désigna une table et nous apporta la totalité des dossiers consultés par la victime. Je passai le contenu d'une boîte en revue. Des contrats, des passations de marché, des délibérations, tout un fatras de papier recouvert de tampons, de dates, de chiffres. Rien d'inquiétant. Si seulement nous avions un axe de recherche. La journée s'annonçait difficile. Elle le demeura. Je ne trouvais rien de significatif si ce n'est l'état annuel de la taxe sur les chiens pour la région de Toulouse en 1942. Lardenne exhuma une liasse de documents qui émanaient du conseil de guerre condamnant de Gaulle, général de brigade, au peloton d'exécution pour haute trahison. À 5h30, nous quittions le Capitole, découragés au milieu des employés communaux. Lardenne m'entraîna en direction du Florida, un bar de la place. Ça fait des années que je n'y mets plus les pieds. C'était notre lieu de rendez-vous pendant les années de fac. Je me souviens, on disait partout qu'il fallait se méfier en parlant. Ah oui, pourquoi ? C'était le troquet le plus fliqué de Toulouse, une légende très certainement. Allons-y, pour une fois, il justifiera sa réputation. Le lendemain, à la préfecture, nous étions reçus par M. Lécussan, directeur des archives administratives, un vieux fonctionnaire ridé, affligé d'un pied bot. Il nous précéda dans le dédale des rayonnages. Son corps vacillait à gauche, mais quand sa tête menaçait de heurter les montants de fer, sa prothèse frappait le sol parqueté et il revenait à la verticale. Il accompagnait son déhanchement d'un grognement presque inaudible. Après votre communication téléphonique, inspecteur, j'ai consulté les dossiers que la victime a souhaité étudier. Toute la côte DE, des vieilleries comme il y en a tant ici. J'ai fait déposer l'ensemble des documents dans mon bureau. Vous serez plus à l'aise pour travailler. Je me tiens à votre entière disposition. Il referma doucement la porte, puis s'éloigna dans les couloirs sur son rythme binaire. C'est pratique, nous sommes certains qu'il n'écoutera pas à la porte. Sa plaisanterie le mit en joie. Lardenne saisit la première liasse pleine d'entrain. Débroussaillage, dédommagement, défense passive. Les papiers administratifs qui défilaient entre nos mains au cours de cette journée différaient peu des précédents. Il concernait cette fois l'ensemble du département de la Haute-Garonne et non la seule ville de Toulouse. Nous étions bientôt incollables sur les problèmes d'assainissement au Muret, à Saint-Gaudens, ou sur la doléance des communes de Montastruc et de Léguevin au sujet de la réfection respective des routes nationales N88 et N124. Les hasards du classement faisaient se rencontrer le burlesque et le tragique. Ainsi, une note du préfet exigeait l'annulation des délibérations de la délégation spéciale de l'ANTA sous prétexte que les membres du conseil municipal s'étaient réunis dans l'arrière-salle de l'auberge. Les lettres suivantes, où ils expliquaient leur attitude par l'effondrement du toit de la mairie, n'y firent rien et le préfet maintint sa décision. La chemise répertoriée après délibération portait une inscription soigneusement calligraphiée avec ses pleins et ses déliés. Déportation. La déportation était traitée de la même manière que les autres tâches de l'administration. Les fonctionnaires semblaient avoir rempli ces formulaires avec un soin identique à celui apporté au bon de charbon ou à la rentrée scolaire. On manipulait la mort en lieu et place de l'espoir. sans s'interroger, épinglé sur un carton, un télégramme jauni signé Pierre Laval, daté du 29 septembre 1942, recommandait aux autorités préfectorales de ne pas démembrer les familles juives promises à la déportation et précisait que, devant l'émotion suscitée par cette mesure barbare, j'ai obtenu de l'armée allemande que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents et puissent ainsi les suivre. Une liasse de circulaires revêtue du paragraphe AV mettait ces directives en œuvre. Contre la barbarie, direction Buchenwald et Auschwitz. Je confiais la pile référencée d'ératisation au brigadier Lardenne et je me replongeais dans les immensités bureaucratiques de la désinfection. Chapitre 4. Le portier du Mercure était occupé à caser les valises dans le coffre de la coccinelle, tandis que Claudine Chenet réglait la note à la réception. Je l'interceptais au passage. « Bonjour, je tenais à vous saluer avant votre départ. Je ne m'attendais pas à tant de politesse de la part de la police toulousaine. Vous faites votre possible, mais ça ne parviendra pas à me rendre cette ville sympathique. J'en suis désolée, je suis venue vous confirmer que le corps de Bernard Thirault sera rapatrié dès lundi. L'autopsie ne nous a pas appris grand-chose. » À l'évocation du travail du médecin légiste, elle ferma les yeux, longuement. « Excusez-moi, je n'arrive pas à m'y faire. Vous êtes sur une piste ?»« Non, pas vraiment. Nous possédons un signalement assez précis du meurtrier présumé. Actuellement, le brigadier Bourassol établit la liste de toutes les personnes présentes à la préfecture le soir du drame. Ensuite, nous vérifierons leur activité, leur situation financière, leurs problèmes affectifs. » Dans quel but? En quoi cela peut-il concerner la mort de Bernard? Écoutez-moi, ce n'est qu'une hypothèse absurde, mais il faut l'envisager. Admettons que l'assassin ne possède qu'un signalement approximatif de son objectif et que votre ami corresponde justement à ce signalement. Non, c'est impossible. Cela reviendrait à dire que Bernard est mort pour rien. Une bavure d'un nouveau genre, sans plus. Je vous le répète, ce n'est qu'une hypothèse de travail, mais il n'est pas dans mon pouvoir de l'écarter. L'assassin et ses commanditaires, dans ce cas de figure, ont dû s'apercevoir de leur erreur. Ils n'auront rien de plus pressé que d'exécuter leur contrat. Mon boulot consiste à les en empêcher. Il m'arrive de courir près des fantômes plus souvent qu'à mon tour. Mais soyez rassurés, je n'abandonne pas pour autant la piste initiale. Il est très probable que le meurtrier a bien rempli sa mission. Ça implique qu'il vous a pris en chasse à Paris ou qu'ayant appris votre départ et votre destination, il se soit précipité ici. Vous semblez bien sûr de vous, inspecteur. Sinon, je ne comprends pas pourquoi un assassin viendra à Toulouse tuer l'homme qu'il a sous la main à Paris. Par la suite... Il a réussi à dénicher votre hôtel et il a filé Bernard le matin où il se rendait à la préfecture. Il a fait le guet la journée entière, puis il a suivi Bernard à sa sortie. Il a profité du passage dans une rue déserte pour commettre son crime. Mais comment a-t-il pu nous localiser aussi rapidement ? Au premier abord, ça semble compliqué. Mais lorsqu'on cherche quelqu'un et qu'on est déterminé à lui mettre la main dessus, on se rend compte que c'est aussi simple que bonjour. Vos parents, vos amis étaient au courant de vos projets. Le meurtrier a passé un coup de fil en se faisant passer pour un proche. Comment croyez-vous que nous procédons de la même manière? Pour votre hôtel, c'est enfantin. Le syndicat d'initiative édite chaque année un guide des hôtels de Toulouse. Le gars s'est contenté de relever tous les numéros et d'appeler systématiquement avant d'y arriver à la lettre M de Mercure Saint-Georges. À sa demande, le réceptionniste s'est fait un plaisir de confirmer le séjour de Monsieur et Madame Thirault. L'hôtel possède 170 chambres. Le standard traite une moyenne de 1200 communications journalières. J'ai eu le chiffre à la direction. Malheureusement, personne ne se souvient d'un appel aussi anodin. Pas de miracle. Le portier du Mercure avait fini de ranger les bagages. Il s'approcha de nous. Claudine ne faisait pas attention à lui. Je sortis 20 francs de ma poche et les glissai dans le creux de la main du gars en livrée, qui me remercia par un sourire appuyé et une courbette de première classe. Claudine se rendit compte de la situation et tenta de me rembourser. Non, gardez cet argent. D'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire. Je dois passer quelques jours à Paris pour l'enquête. Si vous acceptiez de me prendre à vos côtés, je vous tiendrai compagnie pour le voyage. Elle accepta sans prendre le temps de réfléchir. Je rejoignis l'Ardenne qui stationnait au parking de l'hôtel et interrompit son combat avec le Rubik's Cube. Passez-moi ma valise. Je ne prends pas le train. Mademoiselle Chenet m'a proposé de faire le chemin avec elle. Pour le retour, rien de changé. Vous me prenez samedi prochain au train de 11h. D'accord, patron, à moins que vous ne trouviez un autre chauffeur d'ici là. À la réflexion, c'était bien la première fois qu'il m'appelait patron. Nous avions laissé l'aéroport de Blagnac sur la gauche. Le compteur de la Volkswagen ne quittait pas le 130 à l'heure. À ce rythme, nous étions sûrs d'arriver à Paris en milieu d'après-midi. Mais à la vue du resto-route de Saint-André de Cubzac, elle se décida à faire une pause. Ce n'était pas pour me déplaire, et les diapositives verdâtres, vantant les saveurs incomparables des plats servis au bar, ne parvinrent pas à me couper l'appétit. Un quart de touriste espagnol déversa sa cargaison devant les portes alors que nous nous installions. Je commandai un œuf mayonnaise et un grillade aux frites. Claudine se contenta d'un plat de crudités et d'un thé. Mis à part les futilités, la fumée ne vous dérange pas? Vous n'avez pas trop d'air? Elle n'avait pas décroché un mot depuis le départ de Toulouse. J'essayais de renouer le dialogue. Quel genre d'études faites-vous? La réponse me surprit par sa concision. Histoire. Je m'accordais 10 bouchées de réflexion avant d'oser une nouvelle question. Quelle période? Mes efforts furent récompensés. Elle sortit de sa mélancolie. La zone parisienne au début du siècle, plus particulièrement la population qui s'est installée sur l'emplacement des fortifications de Paris après leur démolition en 1920. Pour vous situer, c'est approximativement l'emprise actuelle du périphérique. L'évocation de ces recherches l'avait animée. Je décidai de rester sur le même terrain. C'est un drôle de sujet pour une jeune femme comme vous. J'ai lu quelques bouquins d'Auguste Le Breton. On s'attendrait plutôt à voir un militaire à la retraite, à la limite un flic, s'intéresser à ce genre d'études. Bernard aussi était historien. Il était spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Elle reposa sa fourchette et me fixa en esquissant une moue. Non, pas du tout. Il préparait une thèse sur l'enfant au Moyen-Âge. Vos renseignements sont inexacts. C'était une simple supposition. Votre ami a consulté au Capitole et à la préfecture des liasses de documents sur la période 1942-1943. J'en ai déduit qu'il profitait de votre passage à Toulouse pour compulser des archives indisponibles à Paris. Elle demanda deux cafés au serveur et appuya sa tête sur ses paumes en comprimant ses joues. Ses longs ongles vernis et acérés pointaient sous ses yeux. Je me mis à la détailler pour la première fois. Une évidence que j'essayais inconsciemment de contourner s'imposa à moi. Ces quelques moments d'intimité avaient aboli la distance. Claudine n'était plus une simple cliente. Je savais qu'elle devait quitter la ville ce matin. Le juge d'instruction m'en avait informé et je n'avais rien eu de plus pressé que d'obtenir cet ordre de mission pour Paris. Dans ma courte carrière, j'étais déjà tombé deux fois amoureux de témoins ou de victimes. Et dire que certains trouvent que la police manque de cœur. En Alsace d'abord, où j'avais rencontré Michel Shelton, l'ami d'un jeune militant écologiste assassiné. À Courvilliers ensuite, une ville dortoir de la banlieue parisienne. Là encore, je ne m'étais pas avoué facilement mon intérêt pour Monique Verbel. Il y avait de quoi. Quand j'avais fait sa connaissance, elle était allongée sur son lit. Une balle de 9 mm venait de lui transpercer la poitrine. Le plus ringard des psychanalystes réussirait à soutirer 10 ans de séances bi-hebdomadaires d'un paumé qui lui annoncerait un tel programme. Eros et Thanatos, le couple maudit. Mon regard s'était fait insistant. Pourquoi me regardez-vous de cette manière, inspecteur? Vous me mettez mal à l'aise, comme si vous doutiez de mon innocence. Vous voulez que je sois franc? C'est votre rôle, je crois. Sinon, ce serait à désespérer de tout. Je suis atteint d'une maladie professionnelle très répandue chez les jeunes flics, surtout lorsqu'ils sont en face d'un témoin aussi joli que vous. Ses mains quittèrent son visage. Elle fut debout en un éclair. « Taisez-vous immédiatement, inspecteur. Je ne vous amène pas à Paris pour entendre ce type de discours, mais pour faciliter l'enquête. Je n'ai pas le cœur à jouer à la veuve outragée, et si j'enterre Bernard cette semaine, sachez que je ne suis pas prête à repartir pour un nouveau massacre. » Elle prononça la phrase suivante sous le tunnel de Saint-Cloud, 550 kilomètres plus loin. « Je vous dépose à quel endroit ?»« Au coin de l'avenue de Versailles, il y a une station de taxi. » Elle ne me proposa pas de me rapprocher et fit grincer la première vitesse en quittant le bord du trottoir. Le lendemain, ma première visite me conduisit à l'île de la Cité. Je montrai mon ordre de mission à 5 ou 6 reprises avant de pouvoir accéder au fichier central. Le dernier huissier satisfait, j'entrai dans la salle du 4e étage. Tout était gris, le sol, les murs, les étagères, jusqu'aux employés revêtus de blouses sombres, dont les joues et les cheveux avaient pris la teinte dominante. Une odeur de poussière réchauffée flottait dans l'immense pièce. Une vieille odeur incrustée depuis des années, prisonnière des larges tentures qui recouvraient les fenêtres et de la série de portes à double battant qui menaient aux escaliers. Une note placardée à l'entrée m'informa que le système de classement reposait sur 2 données distinctes, le nom de famille de la personne recherchée et l'adresse à laquelle elle était censée habiter. Je tendis mon questionnaire au préposé. Il m'indiqua une chaise libre d'un mouvement de tête. Je m'assis à côté d'un fonctionnaire de police abattu par l'ingratitude de sa tâche. Les recherches demandèrent 1 heure. On m'appela au guichet avant de me remettre une fiche brune. A. Fichier alphabétique. Bernard Thirault, inconnu. B. Fichier d'arrondissement. 5 rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Paris 2e. Personne fichier. 1. Alfred Drouet. 2. Jean Valette. 3. Roger Thirault. 4. Françoise Tissot. Je remplis un second questionnaire au nom de Roger Thirault et le remis à l'employé. Il se contenta d'un rapide aller-retour, puis écrivit directement les renseignements devant moi. A. Fichier alphabétique Roger Thirault, professeur d'histoire au lycée Lamartine, né le 17 juillet 1929 à Drancy, Seine, décédé le 17 octobre 1961 lors des émeutes FLN à Paris. Élément européen probablement lié au mouvement terroriste algérien. Le service de l'état civil de la mairie de Paris me confirma qu'il s'agissait bien du père de Bernard Thirault. Je filai aux renseignements généraux. Un collègue avec lequel j'étudiais à la fac de Strasbourg avait pris la direction de la section identification. Coup de chance, il était dans son bureau, plongé dans les rondeurs glacées d'un magazine pour hommes modernes. « Salut Dalbois, on ne s'embête pas au RG. C'est le patron qui vous paye l'abonnement ?» Il sursauta et posa le bouquin grand ouvert à la fille centrale. « Cadin, quelle surprise, je te croyais à Toulouse. Qu'est-ce que tu viens manigancer dans le quartier ?»« Rien de compromettant, rassure-toi. Je travaille sur une affaire de meurtre. Un Parisien qui est venu se faire descendre à 2 pas de mon commissariat. Ça me vaut 8 jours à Paris aux frais de la princesse. Et toi, ça marche ?» Il agita la main comme pour imiter le roulis d'un bateau. « Moyen, on épure les fichiers. Il faut refiler tout ce qui touche de près ou de loin au terrorisme, au nouveau service qu'ils ont créé au ministère. Depuis 2 mois, je ne fais que ça. Fini les enquêtes de terrain, ils m'ont transformé en employé de bureau. » Il se leva et déplia sa longue silhouette. Le manque d'entraînement était visible de profil. Un bourrelet de graisse ceinturait sa taille et tendait le tissu de sa chemisette d'été. Il y avait toujours ce teint jaune des gens qui ne supportent pas l'alcool mais ne parviennent pas à s'en passer. En 5 ans, il avait perdu la majeure partie de ses cheveux. La calvitie butait sur une mince bande qui prenait naissance au-dessus de chaque oreille pour s'élargir sur la nuque. Il avait gardé le goût des vêtements nets, bien que la modicité de son traitement le conduisait à fidéliser ses achats aux 3 Suisses plutôt que chez Cardin. Si ce n'est pas pour le boulot, tu viens me rendre visite comme ça, un souvenir du bon vieux temps. Pourtant, je me rappelle qu'on n'était pas souvent du même avis tous les deux. Je m'avançai vers lui et lui tapai sur l'épaule d'un geste amical. On ne s'est jamais battu ensemble. En fait, j'aurais besoin que tu me rencardes sur une histoire qui date de plus de 20 ans, d'octobre 61 pour être précis. Qu'est-ce que ça vient faire dans ton enquête ? Je décidai d'être franc avec lui. Il ne dirigeait pas un service de renseignement sur sa bonne gueule. Au moindre flou, il se refermerait définitivement. Le père du gars assassiné à Toulouse est mort lors des émeutes algériennes du 17 octobre 61. J'ai appris ça au fichier. C'est peut-être une piste valable. Tu as déjà entendu parler des porteurs de valises, ces Européens qui ramassaient l'argent pour le compte du FLN et qui ne faisaient transiter en Suisse ? Il hocha la tête et commença à se balancer sur son fauteuil. Oui, bien sûr, le réseau Janson et tout le tremblement. Dans la maison, il y a encore 2 ou 3 ancêtres qui ont suivi l'affaire de bout en bout. Toutes les filières ont arrêté de fonctionner en juillet 62, au moment de l'indépendance. Les dossiers sont classés enterrés. Je crois même que tous les Français condamnés pour avoir aidé le FLN sont amnistiés. Je ne vois pas ce que tu espères trouver de ce côté-là, sinon des emmerdements. La persuasion avec laquelle il tentait de me convaincre signifiait l'exact contraire. Le sujet était trop sensible. L'ami d'enfance s'était mué en gardien du temple. Supposons que le père Thiraud se soit mouillé dans la combine des valises de fric du FLN. Sa liquidation en octobre 61 peut être l'œuvre de Barbouze chargé de nettoyer le paysage politique. En ce temps-là, on n'appréciait pas beaucoup les Français qui passaient de l'autre côté. Tu vas un peu loin, Cadin. Tu te rends compte de ce que tu racontes ? Oui, tout à fait. Au début, il y eut quelques procès, mais le résultat était contraire. Ça leur faisait de la publicité à bon compte et les transformait en martyrs. Ne viens pas me dire qu'en travaillant dans ce service, tu ignores ces petits détails. Ils ont toujours pratiqué de cette manière. Pour liquider l'OAS également, c'est un ancien préfet de Saint-Saint-Denis qui dirigeait les commandos gaullistes. Enfin, il n'y a pas que l'hypothèse des Barbouzes. Je n'exclus pas l'idée que le FLN se soit chargé du travail, par exemple en représailles contre la disparition d'un colis ou pour punir un convoyeur trop bavard. Je dirais même que cette explication me paraît plus satisfaisante car elle a l'avantage de faire le lien avec le meurtre du fils. Imagine qu'en fourrant le nez dans les affaires de son père, il ait découvert une partie du trésor de guerre du FLN. Tout à l'heure en entrant, tu te foutais de moi parce que je jetais un œil sur un bouquin de cul. Toi, tu préfères le roman feuilleton. Il est planqué où ton trésor de guerre ? Il est planqué où ton trésor de guerre ? Dans une salle secrète du Capitole ? À Toulouse, peut-être. C'est une des villes qui compte le plus grand nombre de rapatriés d'Algérie et de gens susceptibles de vivre dans le passé. Ça vaut le coup de vérifier. Je ne te demande qu'une chose, sortir le dossier Roger Thiraud pour me permettre d'en prendre connaissance. Il attrapa le téléphone noir posé sur le coin de son bureau et composa un numéro intérieur à 3 chiffres. Je vais voir ce qu'il est possible de faire pour toi. Son correspondant était visiblement en ligne car il dut s'y reprendre à 2 fois avant de l'obtenir. « Allô, Gerbet ?» C'est Dalbois de l'identification. J'ai besoin de me faire une idée sur les porteurs de valises. Il est possible que certains d'entre eux se soient reconvertis dans les réseaux terroristes. Tu dois avoir une synthèse sous le coude. Pendant que je te tiens, ajoute donc le dossier Roger Thiraud, un maître du FLN, un Européen décédé lors des manifestations algériennes d'octobre 61. Il raccrocha content de lui. Il semblait surtout heureux d'avoir montré l'étendue de son pouvoir à un petit inspecteur de province. Tu auras tout ça dans un quart d'heure. Sinon, tu es marié ? Non, je n'ai pas le temps de m'habituer à un coin que je suis déjà muté. Je vais voir à Toulouse. Et toi ? Il se tapote le ventre et redressa la tête. Ça ne se voit pas ? Tu auras bien un moment pour faire connaissance avec Gisèle. C'est une excellente cuisinière. Demain soir, par exemple, je m'arrangerai pour faire garder les 2 mômes par la belle-mère. J'acceptais afin de ménager mes intérêts. Au moins, je n'aurais pas à me forcer pour amuser les gosses. Un collègue
de Dalbois, Gerbet, très certainement, pénétra dans la pièce et déposa un volumineux dossier sur le bureau. « Tiens, voilà, c'est tout ce que nous avons sur les réseaux d'aide aux Félouses. Tu es peut-être sûr du sérieux, plusieurs noms sont en rouge sur les listings du terrorisme. On les ressort une à deux fois par an, surtout tous ceux qui gravitaient autour de Burdiel. » Mais je te préviens, ce sont de très gros poissons. On n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. On se contente de recoupements, de coïncidences. Ensuite, c'est le brouillard. Même quand Burdiel s'est fait descendre par le groupe Honneur et Police, on n'a rien trouvé sur son compte. En parlant, le gars ne cessait de jeter des regards rapides dans ma direction. Dalbois se décida à le rassurer. C'est un ami, l'inspecteur Cadin. Il enquête sur une vague histoire de meurtre à Toulouse. Il profite de son passage à Paris pour faire signe aux vieux copains. Tu peux continuer, Gerbet. Nous sommes entre nous. Gerbet me serra la main et poursuivit son discours à l'intention de Dalbois. Si tu mets ton nez là-dedans, sois prudent. Ils ont exécuté Burdiel à la suite d'une intox de nos services. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, il avait abandonné le service actif et militait pour le rapprochement politique des Palestiniens et de la gauche israélienne. On nous a fait gober qu'il était en contact avec des éléments armés opérant sur le territoire national, que son appartement servait de planque. Des fuites ont été organisées à partir de documents d'enquête. La presse a sorti l'histoire. Une semaine plus tard, Burdiel se faisait aligner par le groupe Honneur et Police. Ok, je marcherai sur des œufs. Et le dossier Thiraud ? Gerbet posa un dossier de couleur bulle devant Dalbois et l'ouvrit. Il contenait trois ou quatre feuilles dactylographiées. Je me demande bien ce que tu peux vouloir à ce type. On peut résumer sa vie en deux lignes. Dalbois saisit les feuilles en lui lançant. Je me fous de sa vie. Ce qui me passionne à son sujet, c'est justement sa mort. Tu me laisses cette paperasse, je te la retourne avant ce soir. Gerbet me salua et quitta la pièce. Vraiment charmant ton collègue. J'imaginais des rapports plus tendus dans un service de renseignement. Tu as juste à demander poliment qu'on te livre les secrets d'État à domicile et ça suit. Non, il ne faut pas rêver. Certains se font tirer l'oreille, mais pas Gerbet. Il ne peut rien me refuser. Et pourquoi donc ? Permets-moi de tenir à la discrétion. Mon boulot consiste à savoir un maximum de choses sur un maximum de gens. En règle générale, des faits dont les principaux intéressés masquent l'existence. Suppose un instant que tu sois employé à la préfecture et que des bruits insistants mettent en doute l'intégrité morale de ta femme. Par exemple, qu'elle ne dédaigne pas la compagnie de très jeunes filles. Pas de chance, je t'ai déjà dit que je ne suis pas mariée. Dalbois se mit à sourire. Ce n'est pas le cas de Gerbet. Arrêtons de parler de ces conneries. Si je continue, je vais passer pour un salaud. Voyons le pédigré de ton bonhomme. Il sortit une fiche de la chemise. Roger Thiraud, né le 17 juillet 1929 à Drancy, Seine, décédé le 17 octobre 1961 à Paris, Seine. Professeur d'histoire au lycée Lamartine à Paris. Marié à Muriel Labor, un enfant né postérieurement au décès du père, Bernard Thiraud, le 20 décembre 1961 à Paris. Domicilié 5 rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Paris, 2e arrondissement. Aucune activité politique ni syndicale. Membre de la Société des gens d'histoire. Son nom figure en 1954 sur une liste de signatures référencées Appel de Stockholm. Ça consistait en quoi cet appel ? Dalbois posa le papier et me regarda. Une pétition internationale pour l'interdiction des armes atomiques. Ça venait des communistes ? Ils étaient dans le coup, mais l'appel a été signé par plus de 1 million de Français. Si on se met à l'éplucher, on tombe sur la moitié des députés de l'actuelle Assemblée, majorité et opposition confondues. Il est difficile d'accorder une trop grande importance à un indice de ce genre. Il y a aussi la déclaration de l'Institut médico-légal. Découvert mort d'une balle dans la tête, tempe droite, à l'issue des émeutes algériennes du 17 octobre 1961. Heure probable du décès, entre 19 et 24 heures. Autopsie, néant.
vêtements et objets divers relevés sur le cadavre, costume 3 pièces en laine de marque Hudson, taille 42, teinte grise, rayures blanches, chemise dite américaine bleu clair, taille 38, maillot de corps et slip blanc sans marque, chaussures noires woodline ressemelées, chaussettes de couleur noire marque Stan, une montre D4 en état de marche, un portefeuille contenant une carte d'identité et une carte professionnelle délivrée par l'éducation nationale au nom de Roger Thirault, une facture de montant de 1498 nouveaux francs pour l'achat d'un téléviseur Ribet des Jardins équipé deuxième chaîne, 123 nouveaux francs en liquide, un ticket de cinéma provenant du midi minuit. C'est tout. Il n'est pas bien bavard, ton client. Non, je me fous totalement de savoir s'il porte des slips petit bateau ou des slips éminence. À la limite, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est d'apprendre qu'il allait dans un ciné appelé Midi Minuit. Tu connais ? De réputation. Actuellement, ils se sont reconvertis dans le porno, mais à l'époque, c'était le rendez-vous des amateurs de fantastique. Ils programmaient des films de vampires, de sorcellerie. C'était aussi mal vu, alors, de fréquenter ce cinéma que de passer une soirée à Pigalle. Si je m'appelais Hercule Poirot, je noterais le numéro du billet et je filerais au Centre National du Cinéma pour relever la date exacte à laquelle ce coupon a été délivré. Avec un renseignement de cet ordre, je peux savoir le titre du dernier film vu par Rose Thirault. Accessoirement, l'âge de la placeuse. Qu'est-ce que je peux espérer de mieux ? Rien, ce dossier est incomplet. Ou pire, il est bidon. On doit trouver des éléments plus décisifs quelque part. Cette manifestation, par exemple, je me suis vaguement renseigné. La préfecture a reconnu entre 4 et 10 morts, cela dépend des communiqués. Le SDP, le syndicat départemental de la police, a publié un bilan qui fait état de 60 morts vérifiés. Par contre, la Ligue des droits de l'homme... En entendant ce nom, Dalbois ferma le poing droit et fit mine d'enfoncer son majeur pointé dans un postérieur imaginaire. « Oui, je sais ce que tu penses de ce type d'organisation, mais dans cette affaire, leur avis en vaut bien un autre. Ils parlent de 200 morts le soir des troubles et autant au cours de la semaine qui a suivi. » Ce que j'essaie de souligner, c'est qu'il s'agit d'une histoire importante, un oradour en plein Paris. Personne n'en sait rien. Il doit bien exister des traces d'un pareil massacre. Dalbois se gratta la joue et s'appuya sur le dossier de son siège. Je vais voir ce que je peux faire. Il reprit son téléphone et rappela Gerbet. Je viens de jeter un œil à tes papiers. C'est maigre. Dès que tu arrives à te libérer... Passe les prendre. D'ailleurs, j'ai encore une ou deux questions à éclaircir. Puis, à mon intention, il rapplique tout de suite. Laisse-moi poser mes jalons et reste dans ton rôle de cousin de province. On s'y croirait. Deux minutes plus tard, Gerbet était assis à ma droite. Il écoutait Dalbois qui agitait la chemise bulle devant ses yeux. C'est tout de même extraordinaire. On ramasse un prof d'histoire sur un trottoir parisien, la tête truffée de plomb, et on ne prend pas la précaution de pratiquer une autopsie. Rien. Pas d'enquête non plus. On ne recherche ni les causes de la mort, ni l'assassin. On croit rêver. D'abord, ses papiers. Personne n'a pu établir que Robert Thirault est une partie liée avec le FLN. Il apparaît comme un petit prof tranquille, inoffensif. Qu'est-ce que ça cache ? Il y a sûrement d'autres éléments. Tu es au courant ? Gerbet se trémoussa sur le fauteuil, mal à l'aise. Il s'éclaircit la voix. Écoute, Dalbois, laisse tout ça tranquille. Tu es le premier à remuer ces questions depuis 20 ans. Ça ne servira à rien ni à personne d'établir qu'un professeur d'histoire renseignait une organisation subversive et que l'État français a choisi de l'abattre. Aujourd'hui, ces événements concernent deux pays, la France et l'Algérie. Les gouvernements n'ont aucun intérêt à voir ressurgir certains fantômes. La découverte du charnier de Quinchela en a administré la preuve. Des terrassiers ont mis à jour plus de 900 squelettes en construisant un stade de football dans l'est des Aurès.
Il s'agit, selon toute vraisemblance, de soldats de l'armée de Boumédienne, exécutés par la Légion qui avait un camp à cet emplacement. Les autorités algériennes sont restées très discrètes. Elles ont utilisé cette découverte au seul plan intérieur. Il n'y a pas eu de campagne anti-française déclenchée à cette occasion. Il a fallu que ce soit un fouille-merde de Libération qui se charge du travail. Tu veux dire qu'il va falloir attendre la sortie de Libération pour connaître les raisons de la mort de Roger Thirault ? Non, ce n'est pas du tout ça. Il faut être clair. Les gens actuellement au pouvoir en France ont condamné l'action de la police à l'époque, dans leur grande majorité. En exhumant le passé, le gouvernement algérien ne réussirait qu'à les braquer et à raviver des oppositions, des rancœurs. L'heure est à l'oubli, sinon au pardon. Je ne te comprends pas bien, Gerbet. Si les dirigeants actuels critiquaient la police et le rôle qu'on lui faisait jouer, c'est une bonne manœuvre pour eux de ressortir le dossier et de se faire mousser au nom de la fidélité de leurs principes. Gerbet ne semblait pas apprécier la tournure prise par la conversation. Il remuait de plus en plus sur son siège et recommençait à me lancer des regards désespérés. Pour tout avouer, l'inspection générale des services a fait une enquête en octobre 1961 sous la pression des députés et des sénateurs de l'opposition, un peu comme Béjin avec les massacres de Sabra et Chatila. Sept juges ont été commis sous l'autorité du ministre de l'Intérieur d'alors. Tu n'ignores pas que ce personnage est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, ce qui donne la mesure des précautions à prendre avant d'effleurer ce dossier. Les juges ont dû, entre autres choses, se prononcer sur les causes des décès de 60 personnes dont les corps avaient été amenés à l'Institut médico-légal dès le lendemain de la manifestation. Celui de Roger Thirault devait faire partie du lot. Nouvelle coïncidence, cette commission a vu le jour grâce à l'insistance de l'actuel ministre de l'Intérieur. Et le résultat ? Classé sans suite, il était établi dans les conclusions du rapport que la police parisienne avait répondu à sa mission en protégeant la capitale d'une émeute déclenchée par une organisation terroriste. Très peu de choses ont été rendues publiques. Il existe deux volumes des travaux de cette commission et une synthèse de l'action des différents groupes d'intervention au cours de cette nuit. Un au ministère, l'autre ici, dans les archives de la police nationale. Dalbois se leva en souriant. « Eh bien, c'est celui-ci que je désire consulter. » Gerbet était devenu très pâle. Il suait abondamment. Il s'était tassé dans son fauteuil, les épaules courbées. « C'est absolument impossible. Personne n'y a accès. Seul le ministre est habilité à le faire sortir du coffre et à en divulguer le contenu. Tu connais les décrets concernant la publicité des documents d'État. » 50 ans de secret absolu. Il n'est pas dans mon pouvoir d'y déroger. Et certains dossiers explosifs pourriront pendant des siècles entiers avant de revoir la lumière. Vous savez tout autant que moi que les gouvernements ont besoin d'une police forte et unie. Remettre l'affaire d'octobre 1961 sur la place publique produirait l'effet inverse. On en viendrait vite à juger les décisions d'un ministre de l'Intérieur et l'action d'un préfet de police. Un tel remue-ménage provoquerait la déstabilisation d'une bonne moitié des commandements des compagnies républicaines de sécurité. Elles sont toujours sous l'autorité des mêmes officiers. Qui peut souhaiter un tel bouleversement ? Certainement pas le pouvoir politique. Le gain serait ridicule en regard de la perte de confiance qu'il subirait dans l'ensemble des corps de maintien de l'ordre et dans l'armée. Dalbois se décida à mettre fin à son supplice. Ce qui est appréciable avec les professionnels des RG, c'est leur connaissance approfondie de tous les dossiers. Rassure-toi, Gerbet, je ne vous demanderai pas d'éventer les secrets d'État, d'autant que notre boulot consiste à les créer. Si je te comprends bien, le terrain est complètement balisé. Le moindre faux pas et je saute. Ça a le mérite de la clarté. Tu n'as vraiment aucune source disponible ? Pas de voie royale, désolé. Il reste le BA. Bas du métier. Éplucher les journaux de 1961, les tracts, les déclarations d'indicateurs.
Nous en avons une bonne collection sur microfilm, plus quelques milliers de photos en provenance de l'identité judiciaire. Mais rien de déterminant. Il y a eu des problèmes avec le photographe du service, un certain Marc Rosner. Il devait courir l'intervention des brigades spéciales, mais il n'a jamais remis les bobines. Du moins, c'est la version officielle. Au début des années 60, la photo et le cinéma amateur n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Nous ne disposons que de 10 ou 15 clichés réalisés par des passants. Sinon, on a formellement établi qu'une équipe de la télévision belge, la RTBF, a réalisé un film de près d'une heure. Ils étaient à Paris pour rendre compte du voyage officiel du Shah d'Iran et de Farah Diba. Mais ils ont filmé la manifestation planquée dans leur voiture, puis dans un café. La télé belge n'a rien diffusé. C'est la seule concession qu'elle nous ait faite. Nous avons tenté de racheter les bobines sans succès. Je peux vous fournir les coordonnées des cinéastes belges et celles de Rosner. Je l'interrompis. Pour Marc Rosner, ce n'est pas la peine. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'une enquête précédente. Dalbois me foudroya du regard en laissant la bouche ouverte. Gerbès se planta devant lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas toi qui t'occupes de cette affaire? À quel titre dois-je aider ce monsieur? Dalbois lui expliqua la nature de mes interrogations au sujet du meurtre de Bernard Thirault et de celui de son père. Il parvint presque à calmer son collègue. Il lui promit de le tenir au courant de nos recherches. Dès qu'il ferma la porte du bureau, Dalbois me passa un savon. Je me débrouille pour soutirer un maximum de données en douceur à un as du renseignement et pour tout remerciement, tu me fais porter le chapeau. Tu le fais exprès, on pourrait le penser. Je comprends pourquoi tu n'arrives pas à rester longtemps au même poste. C'est une mesure de sécurité de se débarrasser d'un gaffeur pareil. Dis-moi au moins de quelle manière tu as lié connaissance avec ce Rosner, ça m'intéresse. C'était l'année dernière, à Courvilliers, une sombre histoire de montage photographique destinée à mouiller des personnalités locales. Comme par hasard, je suis tombée sur Marc Rosner. C'est lui qui assurait la partie technique. Son commerce légal ne devait pas être assez rentable. Pourquoi il ne travaille plus pour nous? Non, depuis 1961, un type de l'identité judiciaire m'a raconté ses démêlés avec ses chefs. Rosner ne tournait pas rond. Il aimait bien s'amuser avec les cadavres après le départ du labo. Tu veux dire qu'il... Dalbois semblait réellement horrifié. Non, il se contentait de modifier les poses, de composer des sortes de natures mortes. Ça n'était pas bien méchant et ça n'avait aucune incidence sur son boulot. Tout le monde fermait les yeux, sauf le directeur de cabinet du préfet qui avait décidé d'avoir la peau de Rosner. En septembre, il a reçu deux avertissements et le chef de l'identité s'est fait convoquer. Le soir de la manifestation, Rosner était de service. Il a vraisemblablement mis en boîte les affrontements les plus sérieux. On m'a parlé d'Algériens empalés sur les grilles du métro aérien, de viols dans les commissariats. Avec ce matériel entre les mains, Rosner croyait tenir un atout maître et pensait que le chef de cabinet se montrerait plus compréhensif. Il s'en est vanté auprès de certains collègues. Quelques jours plus tard, une équipe de plombiers a monté une opération dans le laboratoire photographique de la préfecture ainsi qu'à son domicile. Tous ces dossiers, toutes ces archives ont été saisies. Rosner s'est retrouvé à la rue, licencié pour faute grave. Ensuite, il a ouvert un studio, reportage, mariage, communion, à Courvilliers. C'est ce qui t'attend si tu continues d'y mettre ton nez. Je ne connais rien à la photo. Tu te feras détective privé alors. Au fait, n'oublie pas que nous dînons ensemble demain soir chez moi. Dans l'ascenseur, je cherchais déjà un moyen d'échapper à son invitation. Je n'avais aucun besoin de rencontrer Gisèle Dalbois pour la connaître. Le petit village à la française en proche banlieue, le pavillon crépi garage attenant, comble aménageable. Dalbois avait eu le génie du geste. Lorsqu'à l'évocation de mon éventuel mariage, il avait établi la réalité du sien en tapotant son ventre. Madame Dalbois se résumait à cela. Une serviette bien remplie,
Je ne voyais pas comment une soirée d'un nuit parviendrait à modifier mon jugement. Je marchais jusqu'à la station Saint-Michel et m'installai à l'arrière d'un taxi au fauteuil défoncé. Un berger allemand dormait sur le siège placé devant moi. Ses paupières se soulevaient par intermittence et son corps était agité de tics nerveux. Je fouillais dans ma poche, mais à peine avais-je sorti un paquet de cigarettes que la bête se mit à grogner. Son maître donna de la voix. « Il n'aime pas tellement qu'on fume dans sa bagnole. Moi, c'est pareil. Vous allez où ?»« À Courvilliers, rue de la Gare. Ça se trouve auprès, après Aulnay-sous-Bois. » Eh bien, ça fait une drôle de trotte. Il mit en marche son compteur à affichage digital. Je me plongeais dans l'observation attentive de la transformation des chiffres rouges avec une tendresse particulière pour la pureté du passage à l'aide d'une seule barre du 5 au 6 et du 8 au 9. À intervalles réguliers, le chauffeur tentait de lancer la conversation sur les tares de conduite comparées des Arabes et des Africains. Désespéré par mon silence, il essaya de nouer un contact antisémite sans plus de succès. Il se réfugia à bout d'arguments dans l'interprétation sifflée des derniers succès de Serge Lama. Le chien se dressa sur son siège à la hauteur du parc des expositions et s'ébroua. L'habitacle fut instantanément rempli de poils gris et fauves. Le chauffeur tapota le dos de son animal, affectueusement, et parvint à le maintenir immobile. La voiture quitta la route pour contourner les immenses ateliers de l'usine Hotch, puis se dirigea vers le quartier de la gare. « Voilà, vous êtes arrivé. Ça fait 62 francs, plus 20 francs de retour. » Je fouillai mes poches et lui remis le compte exact. « Eh bien, vous n'êtes pas bien généreux. Et le pourboire, c'est pour qui ?» Je me penchai à sa fenêtre en époussetant ma veste et mon pantalon. « Pour le pressing, j'en aurai besoin pour me payer un nettoyage. » Le taxi repartit dans un crissement de pneus. Il tourna vers la bretelle de l'autoroute, mais j'entendais encore les vociférations du chauffeur et les aboiements du berger.